là-dessus. Et on est super fiers de notre collection DVD, parce que c'est des beaux objets, en carton, etc. On fait attention à faire de belles éditions, pour que quand on regarde notre armoire, on se dit, ah ouais, c'est ce qu'on a fait. C'est la maison.
Mais c'est super. Donc d'abord, donc le 20,
Encore sous la lave
voilà,
dans trois
le 20
jours.
et même le 18,
Et le 10 et le 20.
l'avant-première.
Ouais.
Encore sous la lave. Ben, merci en tout cas d'être venu.
Eh bien, merci d'avoir écouté. Merci Christiane. Merci Radio Libertaire. On est tout le temps content de venir ici parce que c'est pas la première fois. Et sûrement pas la dernière.
Non, certainement pas.
Et joyeuses fêtes à tous. Merci.
Voilà, très bien. Ben voilà.
Si, 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 o paraíso já é aqui. Si, 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 o paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio da mangue, a mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha. Sim, 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 o paraíso já está em mim. Sim, 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 o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir, só precisa entender com quem você vive. Parte de mim já foi touro, já foi cavalo, já foi chacal.
Alors, eh ben, ça y est, c'est l'heure, on va se quitter. Et donc, samedi prochain, eh bien, samedi prochain, il y aura un portrait musical de Fraziac qui sera là dans la totalité, parce qu'on avait déjà passé la première partie, ben là, vous aurez le tout. Et ensuite, nous parlerons de trois films. L'innocence de Koreeda, qui sort le 27 décembre. Dream Scénario de Christopher Borgli, qui avait fait Sick of Myself, qui sort également le 27 décembre. Et puis un DVD, qui est, ça c'est le film culte, Land of the Dead de Romero. Voilà, très très bonne semaine. Et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, tenez bon.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. J'ai oublié encore mon disque avec les palindromes de Gérard Durand pour ouvrir ce magazine. Et j'ai constaté aussi combien on s'habitue à l'impossible, à l'innommable, avec des guerres aux quatre coins du monde, voire davantage. Le monde tourne rond et le monde est finalement un rond avec tellement de coins qu'il y a des guerres partout. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques « Je me souviens ». Je me souviens d'élèves prénommés Piotr, Anton, Vassile, Nazar, Anna, Vladimir, Pavel, Sinisha, Senem, Alyosha. Je ne me suis pas préoccupé de savoir qui venait, directement ou indirectement, de par ses ancêtres de Russie, de Pologne, de Biélorussie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Ah si, quand même. Anton était biélorusse, mais là, Belarus, c'est parce que je retenais ça pour des contrepétries. Je me souviens de l'expression « au niveau du vécu ». Je me souviens de « non madame, désolé, ici c'est le numéro 421, ce n'est pas la boucherie sans eau ». Je me souviens de la mention « Coran » imprimé sur papier bible chez un bouquiniste, c'était quand même assez étonnant. Je me souviens que Vaquette m'avait dit « l'avantage du passage à l'euro et de sa division par 6,57, c'est qu'il y aura moins de millionnaires. » Il avait ajouté, mais des milliardaires, il y en aura toujours autant. Je me souviens que sur toute une vie de butinage de 2 mois, de 600 kilomètres parcourus pour le bien commun de la ruche, d'un demi-million de fleurs butinées, sur toute une vie, une abeille produit une cuillerée à café de miel. Je me souviens que, même si j'ai pu être séduit ou ébloui par les mots de Céline, Cioran, Malaparte, Ionesco, Drieu-La Rochelle, Jacques Chardon, Pierre Benoît, Jean Cocteau, Louis Aragon, Knut Hamsun, il y a quand même quelque chose qui me met mal à l'aise avec eux. Je me souviens de Albert Batillot, Louis-Antoine, Abel Berton, Charles Biorel, des noms volés au hasard, parmi les 94 000 noms du monument aux morts de la guerre de 14-18 le long du Père Lachaise. En fait, non. Je m'en souviens pas, mais faudrait pas les oublier. Je ne me souviens pas de ce que sont devenues toutes les trottinettes qu'il y avait sur les trottoirs de Paris, avec leurs batteries au lithium. Je me souviens que, sur 1700 élèves et 35 ans de carrière, j'ai eu un Mohamed chaque année. C'est le prénom le plus répandu. J'ai eu des Cheng et des Chen à peu près tous les 2 ans. C'est le nom de famille le plus répandu de par le monde. Mais comment ça se fait que je n'ai jamais eu de Mohamed Cheng? Ah, j'ai quand même eu une fois un Mohamed Nguyen. Je me souviens d'avoir été maintes fois déçu de découvrir la vie de personnes de mon entourage en qui j'avais confiance, père, cousin, fille, ami de longue date, collègue, compagnon traînant les salles de spectacle, et même ma propre épouse. Quand je les avais entendus déclarer « Oh, elle est moche, celle-là !» Quand ils parlaient tout à coup d'une femme que je trouvais pourtant charmante, un charme fou à cause d'un accent étrange, à cause d'une voix rocailleuse, de 2 yeux légèrement dissymétriques, d'une stature plus qu'athlétique, de 2 yeux d'une couleur tellement banale, d'un sourire trop coincé, d'un menton carré ou volontaire, de kilos qui attirent le regard ou les mains suivant l'heure, et quelques rides avalées, même par les années, d'un front trop grand, de tics pour cacher une paupière qui tombe, d'un nez trop fin, bref, des femmes, avec leur charme fou, qui faisaient d'elles ce qu'elles étaient. Je me souviens que, 2 mardis par mois, j'étais inquiet. Parce que Nina venait faire le ménage à la maison et il fallait que je cache encore mieux que d'habitude quelques livres que je ne voulais pas que mes parents trouvent dans ma chambre Or, Nina a poussé la méticulosité du ménage jusqu'à sortir un par un mes livres de la bibliothèque pour en épousseter la tronche. Tiens, malgré tout, avec le recul, je me demande si mes parents faisaient venir Nina pour le ménage ou juste pour soutenir financièrement, mais avec dignité, une famille qui avait fui le régime de Salazar.
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on n'a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truie. Poi, 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 nous on fait pas d'otages. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais. Pas Israël, poi poi poi, eux c'était des colons. Ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison. Poi poi poi, le Hamas c'est fini. Jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis. Poi poi poi, critiquer Netanyahou. C'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout. Poi poi poi, la paix maintenant et Free Palestine. C'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste. Poi poi poi, votez LFI. C'est antisémite, pas une opinion mais un délit. Poi poi poi, le ballon d'or à Benzema. C'est antisémite, faut le donner. Et Adolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde, non, non, là c'est pas pareil. Poi poi poi, on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Et voilà, Tristan Edern Vaquette sur l'antenne de Radio Libertaire avec un rectificatif quand même qui a tiré sur l'hôpital. Oh, finalement, dans tous les cas, c'est toujours des fous de Dieu, des fous d'Allah, des militaires ou autres. Radio Libertaire 89,4 MHz, je vais pousser. Oh, d'habitude, je pousse plein de boutons pour les micros parce qu'on est, du monde dans le studio avec des invités et tout, mais Moa, qui devait nous trouver des invités théâtre pour aujourd'hui, est excusée pour des raisons familiales. Des fois, dans la vie, on se rend compte qu'on a aidé nos N-1, N-1 ou N+, nos N+1 à démarrer leur vie de leur côté, et on se rend compte que nos N-1 ont beaucoup, beaucoup vieilli et commencent à être fatigués et usés. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, donc on va mettre créatures au singulier dans un premier temps. On va voir si Michel nous rejoint, mais sinon c'est Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour, je suis toute seule dans le studio, ça fait très étrange. Bonjour à tous. Donc le thème que j'ai choisi aujourd'hui... Ce sera les objets. N'en déplaise à l'ère du numérique, un objet aujourd'hui a toujours toute son importance, comme cette foutue lettre que mon père a reçue de la préfecture, ou comme le sapin que je me suis offert aujourd'hui, comme la bague de ma grand-mère que je porte aujourd'hui. Ce thème des objets, donc aujourd'hui, avec des textes qui interpellent sur le pouvoir et la symbolique des objets. Tout d'abord, je vais vous lire un passage de La Barbe Bleue, donc conte populaire repris par Perrault. Pour rappel, aux détracteurs qui diront que la vraie version d'un conte est celle-ci ou celle-là, je répondrai que la version de Perrault est une parmi tant d'autres. Disons que cette version-là est écrite, et donc la plus célèbre. Mais un conte est de tradition orale, il n'y a pas de vraie version. Les contes changent, se transforment au gré du temps de celui qui raconte. J'avais 8 ans et je lisais donc La Barbe Bleue de Perrault. Le passage que je vais vous lire m'avait fascinée et terrifiée. Jamais je n'avais veillé si tard, si curieuse de savoir ce qui allait se passer. Ici, l'objet, c'est une clé. La version de Perrault date de 1697 et raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme qui épouse un homme avec une barbe bleue, qui fait peur aux populations alentour. Elle et ses sœurs et sa mère le rencontrent, le trouvent finalement charmant, il est riche, et les noces se concluent très vite. Dans le passage que je vais lire, le mariage vient juste d'avoir lieu, et la Barbe Bleue part en voyage, laissant à sa jeune épouse les clés de son domaine et des consignes. La Barbe Bleue... Pardon, je ne mets pas la bonne page. Au bout d'un mois, la Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de bien se divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. « Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. » Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elle ne pouvait assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite en considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre.
Thank you. Dans le royaume du roi Bobèche, vers l'année 1450, existe un petit village que dominent les sombres tourelles du manoir seigneurial de Barbe Bleue. Sur la place de ce village s'élèvent deux jolies cabanes, celle du berger Saphir et celle de Fleurette. Vêtue de satin et le geste affecté, Saphir sort de sa maisonnette pour admirer le lever du soleil sur la campagne.
Et voilà, vous étiez peut-être demandé pourquoi cette musique à la suite du texte lu par Sophie. Vous attendiez peut-être normalement avec ça, voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis, ou Anne Masseran. Eh bien non, c'est Jacques Offenbach avec l'ouverture de l'opéra bouffe Barbe Bleue. Eh, mais je me rends compte qu'on a oublié d'annoncer Michel, je l'avais même pas aperçu tout à l'heure en ouvrant les micros.
Et forcément, j'étais pas là. Et oui, on m'a pris au dépourvu. Alors, je vous ai apporté un livre que j'ai pris comme ça. Il était, j'étais en train de faire du rangement et c'est le premier que j'ai trouvé. Je l'ai jamais lu. C'est la vie secrète des cornichons. C'est un ouvrage très sérieux. Alors, c'est un dossier établi pour le compte de l'ONG Cornichon Watch par la brigade spéciale de documentation des hautes autorités d'information et préservation des cucurbitacées. Sous la direction polyculturale de Dominique Mazuet, escouade d'enquête sanitaire dirigée par Olivier Faureau. Alors, il y a une introduction. Ensuite, ça commence par le titre, le cornichon, cet inconnu, ce mal-aimé. Il y a longtemps de cela, alors que je parcourais l'une des anciennes réserves de cornichons de mon réseau social, de curieuses punchlines moussues ont attiré mon attention. J'étais passé maintes fois à côté sans les remarquer, jusqu'à ce jour où je me suis arrêté et concentré. Leur forme était peu ordinaire. En soulevant un peu la mousse de surface, je mis au jour de l'écorce. Ce que je croyais être des plaies à vif d'aspect douloureux était du vieux bois. Le bois dont on fait les flûtes et qui pourrit habituellement en l'espace de quelques années sur le sol social. La dureté du morceau que j'examinais m'étonna. Surtout que je ne pouvais pas le décoder. Il était solidement ancré dans sa tourbe. Je grattais un petit morceau de cette écorce symbolique avec un canif à paradigme et découvris une couche verte. Verte, cette couleur n'apparaît que lorsqu'il y a présence d'escrologites, soit dans les feuilles fraîches, soit stockées sous forme de réserve dans les communautés de cornichons vivants. Une seule explication était possible, ce végétal humanoïde n'était pas mort. À y regarder de plus près, les autres spores n'étaient pas disposés au hasard, mais formaient une sorte de blob rhizomique, social, un réseau peuplé de centaines de milliers d'organismes primitifs. Je me trouvais en présence de très anciens vestiges d'une immense souche de cornichons primordiales, remontant peut-être au néolithique. Il ne subsistait que quelques fragments de ce qui avait jadis été l'écorce, tandis que l'intérieur s'était depuis longtemps décomposé et transformé en humus. Deux indices qui permettaient de conclure que le cornichon tutélaire avait dû être coupé entre 50 et 60 ans auparavant. Mais comment était-il possible que des vestiges survivent aussi longtemps ? Les cellules cucurbitales se nourrissent de démagogies biodégradables. Elles doivent continuellement être en respirer pour se développer, ne serait-ce qu'à un minimum. Or, sans smartphone et sans accès au moins 4G au réseau, donc sans déconstruction en composants assez insignifiants pour être politiquement absorbables, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation d'intrants spirituels de plusieurs dizaines d'années. Et cela vaut aussi pour les vestiges de cornichons, du moins pour les souches qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celle-ci. Elle bénéficiait de l'aide que les cornichons voisins lui apportaient par l'intermédiaire des rhizomes sociétaux. La transmission des substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppe les pointes des racines et contribue ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol urbanicole du palais d'Anne Hidalgo. Mais une chose était sûre, les druides marcheurs environnants lui diffusaient une solution de transition énergétique pour la maintenir en vie. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres... Je m'arrête là parce que, comme je ne connais pas la suite, je vais essayer d'en savoir un peu plus avant. Je vais vous faire profiter.
Ah oui, c'était couru comme illustration sonore les cornichons de ce génie qui était Nino Ferrer et qui a fini effectivement enfermé dans la laisse de Mirza, enfermé dans un fil de téléphone et même coincé dans le sud alors qu'il avait tellement d'autres cordes à son arc et à sa guitare. Mais que voulez-vous, on choisit comme ça quelques chansons. Et puis après tout, j'allais quand même pas vous passer la musique de Litan qu'il avait écrit pour Jean-Pierre Mocky alors que le thème là c'était les cornichons. Moi, j'y peux rien, c'est Michel qui a choisi. Sophie.
Alors, le deuxième texte que je vais vous dire, c'est un court poème que j'avais écrit d'une traite à l'époque et qui s'appelle L'Emeraude. Au fond de moi, au milieu, au cœur, au plus profond, entremêlés de merde, de sang, de pu, d'hormones et autres choses gluantes, chaudes et rouges, vertes, blanchâtres, noirâtres, tout au fond, au cœur, en mon sein, fouillé, quand vous extrairez mes organes pour les donner, je les offre, tous mes organes, sauf les yeux, Vous trouverez une pierre magnifique, la plus belle des émeraudes, ma pierre préférée. Je l'ai cherchée longtemps, en espérant la trouver en Colombie ou dans un coffret que quelqu'un qui m'aime m'offrirait. Mais cette merveilleuse émeraude, ce diamant vert étincelant et pur, est en moi. Creusez, et vous la trouverez. Je n'ai plus qu'à ne pas oublier que je n'ai plus besoin de chercher.
Depuis le temps que j'étais à ma place, que je trônais dans la salle à manger, j'ai vu passer un siècle comme passe 10 000 années quand on est un rocher. Bien sûr, 100 fois on a changé les chaises, mais on ne peut parler de compagnie avec des gens dont l'humour est punaise et rempaillage l'unique souci. Quant aux humains, pardonnez-moi, c'est pire. Ce que j'ai vu est à vous dégoûter. Et j'en connais qui donnerait un empire pour m'empêcher aujourd'hui de parler. À mes débuts, je suis sorti pimpante, fraîche et menue des mains du menuisier, pour atterrir chez ton arrière-grand-tante, 3e étage face à l'escalier. Bien qu'elle n'eût alors que 20 ans d'âge, c'était déjà ce qu'on t'a raconté. Vieille maniaque obsédée du ménage, j'en ai les reins encore tout esquintés. Si j'ai souffert d'une façon certaine, sous le cirage et la paille de fer, un seul dîner, une fois par semaine, c'est emmerdant mais ce n'est pas l'enfer. Elle est morte pour son héritage, sur mon plateau frappait les héritiers. Puis ton grand-père, à la fin du carnage, prit la maison et la salle à manger. Si tu savais combien il est pénible d'être la table d'un jeune marié, d'être pudique et néanmoins la cible des érotismes de l'après-dîner. Et j'ai connu toutes sortes d'outrages, taches de vin et taches de café, taches enfin que tous les bons usages même aujourd'hui m'empêchent de nommer. Ton père et ses compositions françaises qu'il écrivait à tort et à travers, insanité, maladresse, fadaise, que j'ai encore imprimé à l'envers. Et les Noëls, les repas de famille, la politique et les pleurs des enfants, et le papa faisant du pied aux filles, la triste vie nageant dans le vin blanc. Et les matins des lendemains de fête, sous le pain dur et le verre brisé, et les longs soirs et les nuits de défaite, sous les alcools et les fonds appuyés. Je suis moulu, vermoulu, je suis vieille, je les entends jusqu'après leur trépas. Certaines nuits, je sens bien qu'ils essayent de me parler, mais je ne bouge pas. Et quand ma vie finira dans les flammes, dis au poète qui voulait savoir si les objets étaient doués d'une âme, que j'aurais préféré n'en pas avoir. Si les objets étaient doués d'une âme, que j'aurais préféré n'en pas avoir.
Radio Libertaire 89,4 MHz, quand Sophie m'a transmis son thème d'aujourd'hui en disant « les objets », j'ai évidemment la phrase « objet inanimé, avez-vous une âme ?» m'est passée par l'esprit, et puis je me suis dit « oui, Mémoire d'une table de Maxime Le Forestier, ça s'impose effectivement. Après, il a fallu que je réfléchisse en me disant, mais quels sont les objets qui ont pu être personnifiés dans des chansons? Peut-être un vieux chêne transformé en lit, l'horrible mégère ayant beaucoup d'amants vieillit prématurément, mais on reste dans la même famille, là. Allez, Michel?
Alors, Sophie m'a prêté un livre avec des contes. Des contes de Perrault. Voyons voir celui-ci. C'est pas bien long, apparemment. Alors, voilà. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Archéon, représentant dans sa douleur profonde que depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour que dans le bois il se mit à se plaindre, à lui la foudre en main Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. « Je ne veux rien, dit-il en se jetant par terre. Point de souhait, point de tonnerre, seigneur, demeurons but à but. » « Cesse d'avoir aucune crainte, je viens, dit Jupiter, touché par ta complainte, te faire voir le tort que tu me fais. Écoute donc, je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les trois premiers souhaits que tu voudras former sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire, et comme ton bonheur dépend de tous tes vœux, songe-y bien avant que de les faire. » À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde, pour retourner chez lui, sur son dos la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. Ça, dit-il, en entrant sous son toit de fougère, faisons, fanchons, grand feu, grande chair, nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. Là-dessus, tout au long, le fait, il lui raconte. À ce récit, l'épouse vive et prompte forma dans son esprit mille vastes projets. Mais, considérant l'importance de s'y conduire avec prudence, Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Remettons à demain notre premier souhait et consultons notre chevet. Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise. Mais va tirer du vin derrière ses fagots. À son retour, il but, en goûtant à son aise, près d'un grand feu, la douceur du repos. Il dit en s'appuyant sur le dos de la chaise, « Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots, que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que, par bêtise toute pure, son homme imprudent avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que de dépit et de courroux. Qu'elle ne dit au pauvre époux. Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, des beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire ? Eh bien, j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix. J'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. Bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme. Pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. L'époux, plus d'une fois emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf. Et peut-être, entre nous, ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bien nés. Peste soit du boudin et du boudin encore. Plût à Dieu, maudite pécore, qu'il te pendit au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement le fâcha. Fanchon était joli, Elle avait bonne grâce, et pour dire sans fard la vérité du fait, cet ornement en place ne faisait pas un bon effet, si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment. Ne souhaitez rien davantage, je pourrais bien, disait-il à part soi. Après un malheur si funeste, avec le souhait qu'il me reste, tout d'un plein saut me faire, roi rien égal, et il est vrai la grande souveraine. Mais encore faut-il songer, comme serait faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée, et d'aller placer sur un trône, avec un nez plus long qu'une aune, il faut l'écouter sur cela. Et qu'elle-même, elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse en conservant l'horrible nez qu'elle a. Ou demeurer bûcheronne avec un nez comme un autre, comme une autre personne. Et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là, la chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un spectre et la force et l'effet, et que quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire il n'est rien qui ne cède, elle aima bien garder son bas-volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi le boucheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écu ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait pour faire bonheur, pauvre ressource, et remettre à sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'un homme misérable, aveugle, imprudent, inquiet, variable, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a fait. C'est pas facile à lire, hein.
Thank you.
Radio Libertaire, j'ai profité du fait qu'aujourd'hui on était en formation un peu plus réduite pour vous passer en intégralité ce morceau dont je vous avais passé un extrait la semaine dernière. C'est un truc assez étonnant puisque ça mélange, au début vous avez sûrement reconnu de l'allemand puisque c'était du Bach. Si c'est de l'allemand, je suis désolé, moi je prononce Bach, hein, j'y peux rien. Mais alors BWV 492 pour ce qui est du morceau de Bach. Et après ben c'est du Omar Khayyam, c'est-à-dire qu'on va se promener avec des instruments tels que un setar, du kamoun, de la viole de gambe et du théorbe. On va se promener aux frontières de l'Orient et de l'Occident, tout ça grâce au groupe Constantinople avec Kiyat Abassian, c'est le monsieur qui chante du Omar Khayyam, avec une voix grave. Voilà, ça c'était histoire de me faire aussi de mon côté un petit plaisir. J'écoute ça chez moi et ma femme qui passe derrière me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs en train de jouer avec des beats de 2 mètres de long ?» Parce qu'il y a certains instruments à cordes médiévaux qui sont des trucs qui dépassent au-dessus de la personne avec une longue tige sur laquelle ils sont en train de glisser et de triturer des cordes. Mais non, c'est un instrument de musique moyenâgeux. Dessous de scène, à toi Sophie.
Alors d'habitude j'amène des livres et du papier parce que j'aime pas trop le numérique, mais aujourd'hui que je cherchais des textes parce qu'on n'est pas beaucoup, eh bien mon téléphone a été bien pratique et j'y ai trouvé un poème de mon cher et tendre Boris Vian. J'en profite pour parler du Club des Poètes. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est un endroit qui est au 30 rue de Bourgogne où se dit de la poésie depuis au moins 50 ans je crois, et j'ai entendu ce poème il y a peu de temps. C'est la première fois que je le dis, soyez indulgents. Il s'appelle Boîte. On peut tout mettre dans les boîtes. Des cancrelats et des savates. Ou des œufs durs à la tomate. Et des objets compromettants. On peut y mettre aussi des gens. Et même les gens bien vivants et intelligents. Oui, décidément, la boîte est bien le plus indispensable des progrès faits depuis les temps que l'on nomme préhistorique. Faute d'un terme plus subtil pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait dans les marais de l'Orénoque, où le brontosaure brutal broutait des brouets répugnants, où le prérodactyle, enfin, ancêtre extrêmement voisin du sténodactyle ordinaire, ouvrait, pareil à Lucifer, des ailes de vieux cuir de veau dans un crépuscule indigo, en faisant claquer ses mâchoires pour effrayer nos grands-parents. différence fondamentale avec notre vie d'aujourd'hui, les boîtes, mes seigneurs, n'existaient pas encore. Boîtes, je vous aime, toutes, vous vous suffisez à vous-même, et jamais ne nous encombrez. Car pour ranger les boîtes, on les met dans des boîtes et on peut les garder.
Lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes, lorsque les cœurs sont lourds sur la terre entière, pendant 40 jours, des larmes amères engloutiraient les tours. S'il pleuvait des larmes, lorsque meurt un enfant, s'il pleuvait des larmes, au rire des méchants sur la terre entière, en flots gris et glacés, des larmes amères rouleraient le passé. S'il pleuvait des larmes quand on tue des cœurs purs, s'il pleuvait des larmes quand on crève sous les murs, sur la terre entière il y aurait le déluge, des larmes amères des coupables et des juges. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes, lorsque les cœurs sont lourds sur la terre entière, pendant 40 jours, des larmes amères engloutiraient les tours. S'il pleuvait des larmes, chaque fois que la mort, brandissant ses armes, fait sauter les décors sur la terre entière, il n'y aurait plus rien que les larmes amères du deuil et du destin. S'il pleuvait des larmes quand on tue des cœurs purs, s'il pleuvait des larmes quand on crève sous les murs, sur la terre entière il y aurait le déluge, des larmes amères des coupables et des juges.
Pleuvait des larmes, c'est du Boris Vian. Ça avait été mis en musique par Claude Vance, mais là c'est la version de Debout sur le Zinc, sur un album qu'ils ont consacré 100% à du Vian. Radio Libertaire, et si on écoutait Madame Evelyne?
Itinéraire. Quittant le nid de l'enfance, sous la voûte des flamboyants, tu t'en es allé, K1, KA, par des chemins de nuit, par des chemins de neige, égarant tes pas. Pendant un temps, tu avais trébuché aux cris jaillissants des cratères de feu et de sang. Sous la pluie de bombes et de napalm, sur la jungle de soie, sur les rires des villageois, dans la douceur du soir, aux abords du Mekong. Tu avais saigné de la même douleur, de ce même malheur, sans lèvres et sans nom. Mais depuis, tu as retrouvé l'allée de l'espoir, les lueurs de l'aurore renaissant, au-dessus des toits de palmes, se suivant sur le vert des rizières, dans l'onde des rivières, dans la paix, enfin, de retour au pays. Siloam Tran, le 16 novembre 1983.
Avant la fin de cette émission, nous aurons également le cadeau de Jean-Marie. Et cette émission, c'est encore pendant une demi-heure, puisque dans une demi-heure, sur l'antenne de Radio Libertaire, ça sera à Bulle de Rêve, je crois, les coulisses du cinéma d'animation. Mais dans l'immédiat, sorti du fond des poches ou du fond des autres livres, je ne sais pas.
Un petit texte de Pierre de Jade, qui nous rappelle, avant ce texte d'ailleurs, que l'oisiveté a ses limites. Essayez donc de vous tourner les pouces en restant les bras croisés. Il a bien raison. Alors, le texte, c'est les saints des saints. Si le commerce peut être équitable, on ne peut pas en dire autant du calendrier grégorien en vigueur aujourd'hui pour tous. Que l'on se nomme Grégoire ou Ignace, personne n'est parfait, sauf les parfaits, bien entendu. Certains saints y sont ouvertement favorisés, au point de passer pour des pistonnés auprès des autres. Saint Nicolas, Saint Patrick, Saint Valentin, par exemple, font l'objet d'un traitement de faveur en étant fêtés en grande pompe, même si on a connu des Nicolas de format réduit et des chaussures Patrick qui taillent petit. La grande majorité des saints non mis en avant auraient pu se sentir lésés par cette injustice et revendiquer en défilant boulevard Saint-Michel. Mais elle a su se dominer, dominus sanctus quand même, respectant en cela le précepte de saint Robert, un saint se doit de rester caché. Et c'est ainsi, soit-il, que saint Marcellin et saint Félicien n'ont pas fait tout un fromage de ne pas avoir droit aux honneurs de saint Nicolas. On peut même affirmer qu'ils ont été assez coulants sur ce coup-là. L'état des finances publiques inciterait bien à reporter toutes ces célébrations de saints primés à la Saint-Glinglin, comme l'a récemment proposé l'Association des procrastinateurs sans lendemain, APL. Mais la prise d'une telle décision, contraire à la tradition et au commerce local, conduirait son auteur à ne plus être en odeur de sainteté. À suivre pour que l'humour réponde encore et toujours à l'horreur. Pierre de Jade.
Rabordaï. Mince pellicule de cette terre soumise, géante catastrophe, parole déployée, le cauchemar roquette du fond de ton abîme où passe des astres à la gorge enflammée. La bouche des malheurs à l'âme aux bras croisés, du dernier baobab à savoir supporter tous les maux de la langue d'ancêtre mutilé, danse sur l'étendue sacrée du sang brûlé. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Au fond du baobab, un homme est vain. Sa fureur, dans l'écoulement des paysages, s'abandonne aux noctambules des confins. Nomade du roi Christophe, étoile de jadis, engage d'amitié du libre choix sans vice, tu en vivras l'inceste dans un champ de maïs. Saccage et corrosion de ton corps d'Anubis. Peuple, à toi les amours d'Uranus. Dans les remous des marécages, la roue dentée, sans imagination, des excréments vomis en cage, fait ricaner le fouet de la malédiction. Chimère, à coup de cœur, lente maturation de la mangue au rebut, nègrerie, pulsation, la musique n'est pas clandestine, bambou, détonation, à la mémoire reconquise, ainsi soit-il de ma bouche en fusion. Jean-Marie Blanche, merci. Merci.
Eh bien voilà, je vous l'avais dit, il arriverait avant la fin de l'émission, Jean-Marie. Et maintenant...
Tu as quelque chose ?
Je m'aperçois que dans ce livre que tu m'as prêté de George Orwell, il y a un poème.
Ah, ben cool.
C'est un poème. Bella était jeune et Bella était belle, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux dorés. Ô malheureuse Bella, son pas était léger et son cœur plein d'allégresse, mais elle était sans cervelle, si bien qu'un beau jour, elle se trouva grosse des œuvres d'un méchant, cruel et sournois suborneur. La pauvre Bella était jeune, elle ne savait pas que le monde est traître et les hommes trompeurs. Ô malheureuse Bella, elle dit, mon prétendant agira justement en m'épousant maintenant qu'il le doit. Son cœur était plein d'un amour confiant pour un méchant, cruel et sournois suborneur. Elle se rendit chez son prétendant, mais le vaurien avait fait tout emballer et s'était esquivé. Ô malheureuse Bella ! Sa logeuse lui dit, hors de ma vue, catin, je ne veux pas que tu viennes souiller ma maison. Pauvre Bella, réduite à l'affliction par un méchant, sournois et cruel suborneur. Toute la nuit, elle ira dans les neiges cruelles, au prix de quelle souffrance, qui le dira ? Ô malheureuse Bella ! Et quand l'aube rougeoya, hélas, hélas, elle était morte, la pauvre Bella, renvoyée si jeune dans son lit de solitude par un méchant, sournois et cruel suborneur. Ainsi donc, voyez-vous, quoi que vous fassiez, la souffrance vient toujours couronner le péché, ô malheureuse Bella ! Et comme on la mettait dans la froide terre, les hommes dirent, eh oui, c'est comme ça la vie, tandis que les femmes chuchotaient à basse et douce voix. Voilà bien les hommes, ces sacrés salauds. Je ne sais pas qui a écrit le poème.
Je n'en souvenais pas.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare. Un duro lavoro mi tocca far. Oh mamma mia, che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Io ti
via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire là sui montagna, oh bella ciao, bella ciao. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano libertà.
Oui, c'était facile. Moi, on me dit le prénom Bella, et ben je dis adieu la belle, Bella Ciao, qui était initialement une chanson des ouvrières dans les rizières et qui est devenue l'hymne antifasciste d'Italie. Là, c'est dans la version la plus belle qui soit, celle de Giovanna Marini avec ses cantates avec elle. Et sur le disque en question, dans mes souvenirs, ça démarre justement avec la chanson de travail. Ensuite, il y a plein d'autres chansons et à la fin, le chœur revient sur ce morceau-là et c'est absolument superbe. Il me semble d'ailleurs que la version de travail de Bella Ciao était utilisée par Henri Gougaud sur l'antenne de Radio Libertaire il y a de cela, dans les années 80, comme indicatif de son émission. Quand j'entends le mot culture, je sors mon bouclier le dimanche après-midi, et il avait ce petit extrait de Giovanna Marini comme indicatif.
Alors avec Bella tout à l'heure, la transition est toute faite parce que j'ai amené un texte qui parle du dispositif intra-utérin. C'est un dispositif contraceptif, le plus souvent en forme de T, un petit T en cuivre qui mesure 3 cm de long, retenu par un fil et qu'on met dans l'utérus. L'autre nom plus connu est celui de stérilet. J'avais écrit ce texte comme un coup de gueule il y a plus de 10 ans. Pour information, nulle part, ça veut dire femme qui n'a jamais accouché. Trop top. Ce matin, j'ai eu mes règles. Et c'est vraiment très bien, parce que du coup, j'ai pu appeler Illico, ma gynéco, et prévoir un rendez-vous pour me faire poser un stérilet. Enfin, je devrais plutôt dire DIU, dispositif intra-utérin. Je m'explique. Comme toute jeune fille française bien élevée, j'ai été dès mes premières règles informée sur les bienfaits de la pilule. Aussi merveilleuse soit-elle, miraculeuse aussi, extraordinaire même, je ne veux surtout pas offenser qui que ce soit et donc j'en rajoute une couche, la pilule a permis aux femmes de se sentir enfin libres de disposer de leur corps, de vivre la sexualité le plus librement possible sans les désagréments d'une grossesse non désirée. Aussi merveilleuse soit-elle, donc, je le pense aujourd'hui, la pilule est un médicament. La pilule est un médicament, du moins, je l'ai toujours pris comme tel. Disons que si j'avale tous les jours à la même heure, oups, un comprimé, et donc je dis, ne vous déplaise, que je prends un médicament. Certains prennent de l'insuline, d'autres de l'ésoméprazole. En jeune fille bien rangée, puis jeune femme moderne dans le rang, je prenais mes œstrogènes. Avec une certaine mesure toutefois. J'ai considéré que moins je prenais de trucs, mieux ce serait. Je ne prenais donc la pilule miraculeuse, je vous dis que ce n'est pas de l'ironie à la fin, mais uniquement lorsque j'étais en couple, réellement engagée dans une relation avec un jeune homme. J'ai pris ma première pilule à 19 ans. Et puis 13 ans après, j'ai lu un jour la notice de la pilule, je l'avais oubliée celle-là, mais j'avais jamais parlé de contre-indication. Pourtant, pour les autres médicaments, j'ai toujours détaillé chaque notice. J'ai été éberluée de voir la liste des effets secondaires, certains dits rares, mais beaucoup plus d'autres dits fréquents, comme baisse de la libido, dépression, saute d'humeur, syndrome prémenstruel, masque de grossesse, augmentation du risque du col de cancer de l'utérus et du cancer du sein, etc. J'ai à peu près expérimenté tous les symptômes, hormis le cancer, j'espère, et un jour j'ai entendu parler du stérilet. Sur internet, j'ai eu deux sons de cloche. en téléphonant à mon médecin aussi. Sur les sites officiels d'hôpitaux, j'ai trouvé de tout. Une amie a voulu s'en faire poser un. Sa gynéco lui a dit qu'elle était nulle part et que la pilule était plus pratique dans son cas. Qu'elle risquait d'avoir mal. L'a découragée. Après 2 IVG en 2 mois, mon amie revient voir sa gynéco, insiste tellement, lui explique qu'elle oublie la pilule tout le temps et que 2 IVG, c'est trop pour une seule femme, autant physiquement que psychologiquement. La gynéco n'est pas contente, elle lui rappelle qu'elle va avoir mal, des règles super abondantes, qu'elle risque de devenir stérile, etc. Elle finit par lui prescrire, finalement, et lui poser. Au moment de la pose, mon amie a mal, et elle lui rétorque « Alors ben voilà, je vous l'avais dit !» Super, sympa. Aujourd'hui, cette amie est nulle part et porte un stérilet. Une seconde amie a voulu s'en faire poser un. Première gynéco. Après avoir bataillé, elle en a marre de la pilule, elle l'oublie, a des horaires décalés, n'aime pas l'idée de prendre des hormones tous les jours, pendant une période indéterminée, et a appris qu'il existait d'autres moyens de contraception, dont un, sans hormones, appelé stérilet. Le médecin lui dit « Ok, je vous le prescris, mais vous ne viendrez pas pleurer quand vous serez stérile. » Elle ne revient pas la voir. Deuxième gynéco. Il lui dit qu'elle risque des infections, mais accepte et lui prescrit. De mon côté, je me renseigne au planning familial et sur le site de l'OMS. J'y apprends que les menaces de risque sont des idées reçues, que le DIU est plus fiable que la pilule, à quelques nuances près, confort comporte moins de désagréments, est moins cher et est le plus utilisé dans le monde, sauf en France. J'appelle ma gynéco pour prendre rendez-vous et parle de tout ça avec elle. Mon amie vient au rendez-vous avec moi, ce qui est très rare, et je suis très fière d'avoir réussi à le convaincre, ce qui n'était pas si évident, mais c'est un autre sujet. J'y vais très déterminée, avec la peur qu'elle tente de me décourager, de me faire peur, de me culpabiliser, et elle m'explique, et tout s'éclaircit. Elle me dit en posée depuis 30 ans qu'il y a une taille spécifique pour les nullipares, qu'il se pose pendant les règles, vu que le col est ouvert, que les femmes qui ont plusieurs partenaires et sont donc susceptibles de contracter des infections, et notamment l'infection à chlamydia, risquent avec un stérilet de laisser se propager l'infection jusqu'aux trompes, en circulant grâce au fil, mais que jamais le stérilet n'a occasionné d'infection ni de stérilité. Je n'ai ni MST, ni infection, ni rien, juste un amoureux très chouette, qui peut-être va même venir m'accompagner lors de la pause, suspense, et j'ai rendez-vous dans 5 jours. Que va-t-il se passer? Roulement de tambour.
Dieu et donne des conseils. Grâce à toi, on se sent bien heureuse et si belle. Rien que parce qu'on est femme et féconde et fidèle. Comme tu le veux, Jean-Paul, on ne prend pas la pilule. On se sent grâce à toi comme des libellules. Et si d'aventure on peut plaire à un pote, en suivant ta sagesse, on déchire ses capotes. Et puis voilà que craque, on se sent des malaises. Le pote s'est enfui, on s'assoit sur une chaise pour méditer tes mots contre l'avortement. Malgré notre RMI, on gardera l'enfant. Sacré Jean-Paul, grâce à toi quelle fête. Du fond de sa cité, notre beau bébé tête. Grâce au colis Noël et au service social, il pourra s'amuser, il n'aura pas la dalle. Grâce à ta foi, longtemps sa vie s'épanouira, jusqu'à ce qu'en martyr il se donne au sida.
Yeah.
Jean-Paul, le quartet buccal. La suite ?
Du coup, là, c'est l'entrée en scène d'une poupée dans le tome 2 des Misérables, 1862 donc. Donc c'est Cosette qui, vous connaissez Cosette, qui a une poupée toute pourrie, toute moche, et elle voit ça. La file de boutique, en plein vent, qui partait de l'église, se développait, on s'en souvient, jusqu'à l'auberge Thénardier. Ces boutiques, à cause du passage prochain des bourgeois allant à la messe de minuit, étaient toutes illuminées de chandelles brûlant dans des entonnoirs de papier, ce qui, comme le disait le maître d'école de Montfermeil, attablé en ce temps chez Thénardier, faisait un effet magique. En revanche, on ne voyait pas une étoile au ciel. La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, était une boutique de bibelotterie, toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang, et en avant, le marchand avait placé, sur un fond de serviette blanche, une immense poupée, haute de près de 2 pieds, qui était vêtue d'une robe de crêpe rose, avec des épis d'or sur la tête, et qui avait des vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l'ébahissement des passants de moins de 10 ans, sans qu'il se fût trouvé à Montfermeil une mère assez riche ou assez prodigue pour la donner à son enfant. Éponine et Azelma avaient passé des heures à la contempler, et Cosette elle-même, furtivement, il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fût, qu'elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame, comme elle l'appelait, la pauvre enfant s'arrêta, pétrifiée. Elle n'avait pas encore vu cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur, qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Cosette mesurait avec cette sagacité naïve et triste de l'enfance l'abîme qui la séparait de cette poupée. Elle se disait qu'il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une chose comme cela. Elle considérait cette belle robe rose, ses beaux cheveux lisses, et elle pensait « comme elle doit être heureuse, cette poupée-là ». Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette boutique fantastique. Plus elle regardait, plus elle s'éblouissait. Elle croyait voir le paradis. Il y avait d'autres poupées derrière la grande qui lui paraissaient des fées et des génies.
Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, longeait et berçait son ourson sans façon. Vous voyez qu'il était bien disposé. Mais les parents, apprenant qu'il était tendre et maternel, plus rebelle de tomber à bras raccourcis, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez qu'elle n'y avait pas pensé. Ils lui prédirent avec terreur. Il allait être, paraît-il, pas viril. Dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, pas pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement, puis il a fait faire dodo à l'auto. Vous voyez qu'on pouvait bien s'inquiéter. Je est passé sans avanie, son permis, ses sentiments pour son auto, son normal. Tous ne peuvent pas en dire autant. Bien souvent, vous voyez, tout finit par s'arranger.
Ok, j'avais hésité quand même sur le thème de la poupée à passer Chantal Goya, moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, bascule et mes yeux tournent en rond. Et puis finalement, je suis allé chercher Anne Sylvestre. Que voulez-vous, on ne se refait pas sur l'antenne de Radio Libertaire. Dans 4 minutes, ça sera Bulle de Rêve et de manière exceptionnelle, effectivement, l'équipe de Bulle de Rêve est déjà arrivée. Donc ça, il faut vraiment marquer ça d'une pierre blanche. La semaine prochaine, ça sera Evelyne avec des invités, et pour les dernières minutes, qu'est-ce que vous avez comme petit morceau pour conclure?
Alors moi j'ai cherché, j'ai racheté Dans la Dèche à Paris et à Londres de George Orwell exprès pour un passage que j'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'était sur l'importance des chaussures quand on est à la rue et les vols des chaussures, etc. Mais j'ai trouvé un autre petit texte du coup. La valise et les vêtements que je voulais engager avaient coûté au total plus de 20 livres et se trouvaient en très bon état. Je pensais qu'on pouvait raisonnablement les estimer à 10 livres, et le quart de cette somme, c'est généralement ce qu'on obtient chez un prêteur de gages, correspondait à quelque chose comme 250 à 300 francs. J'attendis donc mon tour sans trop d'inquiétude, tablant sur 200 francs au pis-aller. Enfin, l'employé finit par appeler mon numéro. « Numéro 97 !»« Oui, » dis-je en me levant. « 70 francs ?»« 70 francs pour des vêtements valant au moins 10 livres ?» Mais toute discussion était inutile. Avant moi, quelqu'un avait essayé de discuter le prix qu'on lui proposait. L'employé aussitôt avait refusé le gage. J'ai pris l'argent et la reconnaissance qu'on me donna est sortie. À présent, je n'avais plus que les vêtements que je portais sur moi. Un veston troué au coude et un par-dessus dont je ne pouvais espérer tirer beaucoup d'argent. Plus une chemise de rechange. Par la suite, j'appris, mais un peu tard, qu'il valait mieux se présenter l'après-midi dans un monde-piété. Les employés sont français et donc, comme la plupart de leurs compatriotes, assez mal lunés, tant qu'ils n'ont pas eu leur déjeuner. Quand je retrouvais mon hôtel, Madame F était occupée à balayer le sol du bistrot. Elle gravit les quelques marches pour venir à ma rencontre. Son regard disait assez qu'elle n'était pas très rassurée quant à ma solvabilité. « Eh bien, me dit-elle, qu'est-ce que vous avez tiré de vos habits? Pas grand-chose, hein ?»« 200 francs, » répondis-je vivement. « Tiens, » fut-elle d'un air étonné, « c'est vraiment pas vilain. Il faut croire que les tailleurs anglais ne se mouchent pas du pied. » Mon mensonge m'épargna bien des tracas, et curieusement, il se métamorphosa bientôt en vérité. À quelques jours de là, je reçus exactement 200 francs au paiement d'un article que j'avais donné à un journal. Et bien qu'il m'en coûtât, j'utilisais la totalité de cette somme pour régler le prix de ma location, rubis sur l'ongle. Ainsi, même si au cours des semaines suivantes il m'arriva plus d'une fois d'être au bord de la famine, j'eus toujours un toit sur la tête. Et voilà.
Eh bien oui, je les ai vus entrer dans le studio, donc dans quelques instants. Ça va être effectivement Bulle de rêve sur Radio Libertaire, le temps qu'Alexis puisse allumer son ordinateur pour sortir son texte d'ouverture.
Oui, oui, c'est bien Bulle de rêve, bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on a eu des fois là, les loupés ces derniers temps, mais on va être plus sérieux en 2024. On fait déjà quelque chose, déjà des vœux par rapport à ça. Avant de vous présenter les deux, évidemment, piliers de cette émission qui sont à mes côtés encore aujourd'hui, on vient d'écouter Nebulosa, ce générique, on le doit à un monsieur qui s'appelle Francisco Tenorio Junior. Francisco Tenorio Junior, il y a un film qui raconte sa vie, un film que moi je trouve très moyen. On va parler de critique aujourd'hui, on va faire une partie critique qui s'appelle The Shot de Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, donc un film qui était très attendu de deux réalisateurs, notamment Fernando Trueba, très très connu. Je trouve le film, mes deux petits camarades qui n'étaient pas au courant qu'on commençait, donc je ne sais pas s'ils voudront dire quelque chose, mais en tout cas pourront dire. Moi je trouve le film, il est passé en clôture, en ouverture du carrefour de l'animation. Le film plutôt loupé, une espèce de truc un peu lourdingue sur faire une enquête, et voilà, c'est pas pire que Van Gogh, mais c'est quasiment que le film qui était sorti sur Van Gogh il y a quelques années. Le film est lourdingue avec un Jeff Goldblum qui fait un personnage, un journaliste américain absolument mais insupportable. Mais ça nous donne à découvrir un musicien que moi je ne connaissais pas, qui a fait qu'un seul album, Umbalo, donc en 1964, et qui est un musicien assez étonnant, un pianiste assez étonnant, avec une vie assez étonnante, puisque brésilien, il a vécu en Argentine et il s'est fait visiblement tuer par la junte militaire, il a disparu, on ne sait pas du tout si... Il est a priori mort, mais enfin voilà, c'est absolument terrible comme histoire. Donc voilà, au moins, et peut-être que le cinéma c'est aussi ça d'ailleurs, c'est de nous faire découvrir des gens qu'on ne connaît pas, même si le film est pour moi complètement loupé. Marie-Pauline Mollaré qui est à mes côtés. Marie-Pauline, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, c'est Shot of Piano Player?
Eh bien, je suis assez d'accord avec toi, cette idée d'enquête qui apparemment est censée représenter le parcours de Fernando Trueba quand il a découvert l'existence de ce musicien. Moi je trouve ça assez tartignol, et moi ce qui m'a vraiment exaspérée, c'est la voix off qui par moments m'a donné l'impression d'être en fait comme une espèce de blague. J'avais l'impression que c'était outré de manière caricaturale, un peu comme pour se moquer de ces films où il y a des voix off hyper lourdes pour dire, et alors là je retournais à l'aéroport quand tout à coup il se passait je ne sais pas quel truc grave, et c'est vraiment... J'exagère à peine, c'est vraiment cet acabit-là. On le voit un moment dans une voiture avec quelqu'un, et il dit, il me ramenait à l'aéroport, mais il ne dit pas un mot de tout le trajet. Il y a vraiment des trucs comme ça, et je me dis, quand on est obligé toujours au cinéma, que ce soit en animation ou pas, donc...